à cette fâcheuse solitude. Comprenez, je me refroidis à présent, et je suis sûr que d'autres tremblent tout autant. Sur le quai, sa fourmi d'amour ficelé. Sur le quai, voulez-vous bien m'enlacer?
.3, c'est Féministe et vous, l'émission d'OLF 63. Ce soir, les drôles de dames avec nous sont Lise. Bonsoir Lise.
Salut Céline.
Karine.
Bonsoir.
Anne-Laure à la technique.
Bonsoir.
Et Patrick au téléphone. Je ne sais pas si on peut le mettre dans les drôles de dames. Enfin, je pense que ça ne le dérangera pas. Bref. Des luttes et des femmes, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Donc, nous avons un programme chargé. Et comme j'ai pas préparé le sommaire, on va passer directement à l'édito. Debout, debout. Partout, tout le temps, les femmes luttent. Elles luttent pour la justice, pour la liberté, pour la paix, pour la survie. Elles se battent. Il est injuste de penser que les femmes combattantes sont l'exception. Elles sont la règle. On ne voit pas tellement des femmes qui luttent dans les médias. On voit des mères, des victimes et des fashion victimes. C'est que les médias sont un miroir déformant. Ne laissant place qu'aux images qui correspondent aux stéréotypes sexistes, ils renforcent ces stéréotypes et ils influencent à leur tour la réalité. C'est pour cela que les féministes se battent pour changer l'image des femmes. Parce que changer les mentalités, c'est changer le monde. Parce qu'une femme n'est pas qu'une mère ou une épouse. Parce qu'une femme a aussi ses combats. Dans la résistance, dans les révolutions arabes, au Rwanda, au Pérou. Combien d'autres exemples encore? Regardons les femmes combattre, regardons les femmes gagner. Changeons notre regard pour que nos filles trouvent absolument naturel de vouloir devenir chef d'État, chef d'entreprise, artiste, ingénieur, leader politique, etc. Luttons ensemble pour briser ce miroir déformant en regardant en face les femmes qui luttent.
I took a train to see my grandma from Brooklyn, New York to the sunny south to a land called North Carolina. She lived on a dusty country road where folks didn't have no plumbing. She had an outhouse out the back, you know, there was no water running. To take me to the picture show. We walked a long hot mile into the town, but there was something I didn't know. Why did they join the longest line? I just couldn't understand. Oh, they grabbed their little bellies laughing at me. I thought I had a better plan. It was against the law. It was against the law. It was against the law to be black in America. It was against the law. It was against the law. It was against the law to be black in America.
When I reached the ticket booth, the woman curled up her lip and sneered, "Can't you read, little girl?" with her hand pinched to her hip. With shock, humiliation, and shame, I couldn't hardly breathe. I read the sign above that said, "White only," and I turned to leave. It was the law. It was against the law. It was against the law to be black in America. It was against the law. Sit here. Why don't you can't eat here?
can't forget.
Right on.
You can't pray here not to God.
Right on.
You can't be here.
Right on.
You can't sleep here.
Right on.
You can't ride here.
Right on.
But you can die here.
It was against the law. It was against the law.
Against the Law de Brenda Russell, c'est une chanson qu'elle a écrite pour célébrer l'émancipation des Noirs au moment de l'avènement de Martin Luther King. Et bientôt, donc une lutte des femmes très importante s'il en est. Et bientôt, donc nous allons écouter Lise nous parler de la presse et des combats des femmes dans la presse.
Debout, debout.
Le thème de cette émission est des luttes et des femmes. Et dans cette revue de presse, il nous a paru pertinent de nous interroger sur le traitement médiatique des combats de femmes. Autrement dit, quelle est la place laissée dans l'information aux femmes et à leur lutte ? Nous avons participé à un café-débat le 14 mars dernier, animé par Pierre-Yves Ginet, photojournaliste féministe, qui donnait un éclairage sur ces questions. Pour vous planter le décor, la conférence était intitulée « Femmes en résistance ». Pour échapper au mal de l'info. Comme vous devez vous en douter, l'information et le milieu des médias en général ne fait pas office d'exception dans la représentation des femmes comme dans les autres sphères de la société. D'ailleurs, juste avant le 8 mars, des journalistes, eux, ont poussé un coup de gueule dans une tribune intitulant « Prenons la une » pour dénoncer les inégalités salariales et le plafond de verre qu'il existe dans cette profession. Pour retenir un chiffre, la place des femmes dans l'information est de 24%. Lorsque l'on parle d'information, ce sont notamment les journaux télévisés, les articles de magazines, les émissions de radio. Ce chiffre peut être découpé en quatre tranches. 7%, donc je répète, dans les 24% dont je parlais tout à l'heure, 7% sont utilisés pour parler des femmes dans leur rôle féminin, maman, épouse, maîtresse, fashion victim, etc. 7% sont employés pour parler des femmes victimes. Là encore, je ne vais pas vous faire un dessin, mais simplement vous citer Germaine Tillon. Les femmes seront toujours d'éternelles victimes à protéger. 7% sont consacrés aux femmes en politique et aux expertes, et souvent les articles sont empreints de sexisme. Qu'on fait récemment l'arrivée de Ségolène Royal à l'Élysée, les magazines se sont fait une joie de relayer les réflexions sexistes tenues à son égard. Lorsque l'on additionne ces pourcentages, il ne reste que 3 malheureux pourcents pour parler des femmes actives et des femmes qui luttent. Vous en conviendrez, ça fait pas baiser. Heureusement, il existe des magazines qui traitent de l'information autrement. En tête de file, le magazine Femmes en résistance. Nous avons également le mensuel Cosette ou encore les Nouvelles News. Pour illustrer mon propos, je tenais à prendre un exemple concret, le cas du Rwanda. Comme vous le savez, 100 jours de massacres ont été perpétrés au Rwanda, tuant plus de 800 000 personnes. À l'issue du génocide, 80% des survivants étaient des femmes. Malgré leurs blessures, le viol utilisé comme arme de guerre et les séquelles des traumatismes, elles se sont organisées et elles ont parcouru le pays à la recherche de leurs enfants. Au fur et à mesure de leur périple, à travers les orphelinats du pays, elles ont adopté des neveux et nièces, des enfants d'amis, de voisins et même des inconnus. Elles les ont élevées malgré le peu de moyens. Ces veuves ont également constitué une association, Avega, dont l'objectif premier est de venir en aide aux victimes du génocide, mais également de concilier toutes les preuves et témoignages qui peuvent servir pour les procès des bourreaux. C'est grâce à leur acharnement et à leur engagement et aux milliers d'enfants qu'elles ont sauvés que le pays renaît petit à petit de ses cendres. Après de nombreuses recherches, déceptions. Aucun article de presse ne relaye leur combat. De ci, de là, nous pouvons trouver des témoignages des atrocités qu'elles ont vécues, mais on n'interroge jamais ces femmes sur comment elles vont aujourd'hui, sur ce qu'elles ont fait pour s'en sortir. Le seul magazine qui s'y est employé est Femmes en Résistance, qui a consacré un dossier de plus de 10 pages à leur combat. De nombreux portraits ont été réalisés des militantes de l'association Avega. C'est le seul. Aujourd'hui, le magazine Femmes en Résistance est en danger. Ils ont de grosses difficultés financières et menacent de mettre la clé sous la porte. On leur reproche leur engagement et leur militantisme. Il s'agit de l'un des rares magazines à donner une information différente, non stéréotypée et non simpliste. Plus de 2 millions de lecteurs pour elle, 1 300 000 lecteurs pour Glamour. Femmes en Résistance recherche seulement 900 abonnements pour continuer. Alors n'hésitez plus, rendez-vous sur le site femmesenresistancemag.com.
Merci Lise. Et nous écoutons un groupe clermontois, un groupe d'ici, il me semble, qui chante aussi la liberté d'une femme avec cette chanson « Libre ».
De roue s'en va, une femme à son bord, les cheveux au vent, les poussières folles, ses yeux verts sont en colère, elle vient de quitter sa famille. Elle ne sait pas où cette route l'emmène. Tout ce qu'elle sait, c'est que plus jamais on ne lui dira vers où elle doit aller, car elle est libre, elle est libre.
Radio Campus 93.3. C'est bien féministe et vous que vous y écoutez, et vous avez bien raison. OLF 63, c'est Oser le féminisme 63, oui, parce que le féminisme n'est pas un gros mot. Nous avons eu une grande rencontre au mois de mars, Karine, avec Marie-Josée Chambard-Delot. Je te laisse la parole pour nous raconter ça.
Merci. C'est une rencontre de celle qui nous marque la vie, que fut celle que je fis avec Madame Chambard-Delot, une grande dame, animée par la flamme de la vie qui, du haut de ses 91 ans, vous donne l'espoir du combat et des luttes auxquelles elle consacre son existence. C'était comme ouvrir un livre d'histoire, regarder se dérouler, récolter cette parole précieuse en se sentant désormais responsable de transcrire et de transmettre les mots, le témoignage de celles et ceux qui ont vécu l'horreur absolue. Se sentir investi de la lourde, mais pourtant tellement nécessaire, charge du devoir de mémoire. Il s'agissait pour moi d'essayer de comprendre comment et pourquoi l'on devient résistante à 18 ans. Où se niche le choix de l'engagement, de la mise en danger de sa propre vie pour sauver la vie d'autrui? Il n'y a pas de hasard, m'explique-t-elle. Je suis née dans une famille instruite. J'ai vécu mon enfance sur l'île de Bréa, en Bretagne. Mon père était médecin, ma mère était infirmière, puis sage-femme. Elle me raconte que chez elle, les livres ont une place importante, notamment un qui raconte l'histoire des femmes polonaises pendant la Première Guerre mondiale et juste après. Je prends 2 minutes pour vous expliquer cette histoire. Les Polonaises, en 14-18, ont, comme partout en Europe, prouvé leur valeur en remplaçant les hommes partis au front dans tous les domaines qui leur étaient réservés, mais aussi en s'engageant dans l'armée, en particulier dans les rangs de la Croix-Rouge comme infirmière. En 1918, la Pologne retrouve son indépendance qu'il va falloir conserver face aux voisins ukrainiens et soviétiques. Ces nouveaux combats vont être menés par des hommes, bien sûr, mais aussi par des femmes, au sein de la Légion des volontaires féminines, qui prit une part très active dans la guerre contre les bolcheviks au début des années 20. 2500 femmes polonaises se sont engagées sous le commandement de la colonelle Aleksandra Zargoska. Cette légion fut dissoute en 1923, mais plusieurs femmes refusèrent d'abandonner, exigeant l'égalité avec les hommes face au service militaire. C'est donc à partir de ce type de modèle et au sein d'une famille farouchement humaniste que s'est construite Marie-Jo Chambard-Delot. Ainsi, en 1940, l'occupation allemande est vécue comme un véritable cataclysme au sein de sa famille. Chacun et chacune s'engagera alors au sein de la résistance, comme sa mère, Suzanne Wilbor, qui créa le réseau Sidonie. Mais écoutons maintenant Marie-Jo Chambard-Delot nous le raconter de vive voix.
Alors, mon histoire commence dans les Côtes d'Armor, tout à fait au début de l'occupation, et je suis une jeune lycéenne, et mes parents sont sur la côte. Donc, l'oppression qui commence, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais déjà, il y a des hommes de l'île de Sein qui ont entendu par un sémaphore l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Parce que ce message, très peu de gens l'ont entendu. Nous, on est privilégiés. Alors, ils embarquent, ils rejoignent de Gaulle. Et puis, dans le bassin de Paimpol, il y a également un groupe de jeunes qui préparent une école pour la marine marchande. Et tout un groupe important d'entre eux vont rejoindre de Gaulle. Alors, nous, on est en attente. Je ne peux pas passer la première partie de mon baccalauréat. On nous renvoie dans nos familles. Et là, je trouve mes parents, des amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et petit à petit, une première opération va être ceux qui veulent rejoindre De Gaulle, trouver des petits bateaux, etc. Alors, c'est une tâche collective d'information et de recherche de bateaux, recherche d'essence. Et ça se fait dans les nuits sans lune. C'est une chose difficile, mais c'est un premier pas. Et alors, aux hommes qui partent, on met une lettre qu'ils vont remettre à De Gaulle ou aux Anglais. Envoyez-nous quelqu'un qu'on puisse organiser la résistance. Donc, ça s'est fait très spontanément et c'est en recherche du moyen d'action.
Avant de rentrer dans une résistance organisée, Marie-Jo, jeune femme pleine de cran, manifeste par de petits actes quotidiens son refus du diktat nazi. Ainsi, dans les rues de Tréguier, elle se fait un devoir, lorsqu'elle croise des soldats de la Wehrmacht, d'occuper le trottoir pour les obliger à descendre sur la rue. En tant qu'étudiante, Marie-Jo bénéficie d'un Ausweis, autrement dit, un permis de circuler, qui lui permettra de transmettre des informations de première importance à Londres sur l'organisation des défenses côtières par l'armée allemande. Elle apportera aussi un concours précieux à l'évasion vers la Grande-Bretagne d'aviateurs britanniques. Elle est arrêtée le 22 mai 1942. Voici ce qu'elle nous en raconte.
Mais notre réseau, malheureusement, a été infiltré par un agent double, ce qui vous explique que le 22 mai 1942, il y a un gros coup de filet, mes parents sur la côte, un beau-père de ma sœur à Saint-Brieuc, une partie du réseau qui ramenait les renseignements sur la côte, et moi, à Rennes, dans ma chambre d'étudiante. Si c'est, je voulais l'explication là.
Bien sûr.
Eh bien, dans ma chambre d'étudiante, un matin, mes logeurs étaient absents dans ces petites impasses, et l'attraction noire, police allemande, on sonne, mademoiselle, vous êtes arrêtée. Alors je fais naïf, pourquoi? Oh, vous savez très bien, bon. Et il m'emmène d'abord à la commandanture, puis à la prison. Je crois être seule arrêtée, vous voyez. Il faut chez moi, il ne trouve rien. Et c'est comme ça que là, je commence. Et peut-être vous livrez le sentiment que j'ai à ce moment-là. On avait vu sur le mur des affiches. Notre radio émetteur avec qui je transportais les renseignements a été arrêté quelques jours auparavant. Je pensais avoir été arrêté un mois suivant en allant chez lui. Mais en fait, c'était beaucoup plus grave parce que je vais dans la prison et le lendemain matin, il me dit transféré ailleurs. Je vais dans le hall de la prison et là, je vois 13 autres personnes de mon groupe, dont les parents, mon père de ma soeur et puis les gens de la côte. Et on va être transféré à la prison d'Angers.
Dans notre entretien, Madame Chambardelot m'a dit ce qu'elle avait ressenti lors de son arrestation. Je la cite. Quand j'ai été arrêtée, j'avais 19 ans. J'ai vu un mur noir se dresser devant moi et je me suis dit, il y a tellement de choses que je n'ai pas vécues. Arrêtée, la valse des interrogatoires commencera. Marie-Jo Chambardelot est consciente qu'elle risque la peine de mort pour espionnage caractérisé. D'abord enfermée dans la prison d'Angers, elle fut transférée à Paris, à La Santé, puis à Fresnes.
Voilà, alors au bout de 2 mois et demi à la prison d'Angers, qui était une prison entièrement militaire, c'était l'abwehr du service de contre-espionnage de la Wehrmacht. Et puis, on arrive à Paris, dans une partie de la prison de la Santé. Il y a une grande galerie qui s'appelle la 2e division punitive. Et souvent, je dis, c'est peut-être là de ma vie que je rencontrais le plus de grandeur humaine, de courage simple, ces gens, parce que c'était donc des cas très graves, et hommes et femmes. Et de temps en temps, on emmenait un groupe pour être fusillé au Mont-Valérien, qui était au lieu d'exécution. Et alors, il y a là une espèce de grande cloche où ils ont écrit dessus 1008 noms de fusillés. Et alors, chose curieuse, vous regardez sur cette liste, il n'y a pas un nom de femme. Et pourtant, à La Santé, il y avait plusieurs femmes, et j'ai été voisine, on parlait à travers le mur, toujours isolée, je suis restée 9 mois seule. Mais on arrivait à communiquer par un siège de ciment qui nous servait de WC, on parlait. Et cette femme, si je peux lui dire un mot, de France Bloch-Sérazin. Voilà, France Bloch-Sérazin était chimiste de métier et avait fait des explosifs pour faire sauter les trains d'armement qu'attaquait le groupe Raymond Lostrand. Donc, cas très grave, car elle était à la fois classée terroriste, elle était juive, elle était communiste. Tout le plus grave par rapport aux Allemands. Et alors nous parlions, elle me racontait son mari Sérazin était un militant syndicaliste, elle l'a pas su, mais il était tué dans le maquis. Et puis elle avait un petit garçon caché de 3 ans, le petit Roland, qui a pu être sauvé. Et actuellement, Roland a monté un très beau film sur ce couple. On pourrait vous le passer de cachet. Bon, France Bloch, nous communiquions. Et puis, j'ai vu la réalisation de leur procès. Elle était la seule femme. Alors, par mon petit œil tour, je la voyais passer. Ils ont été, mes gens de la chimie, un grand procès. Et puis, le dernier jour, ils sont revenus, tout, en criant, en condamnant, toute la division a chanté la Marseillaise. Alors, c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Pour eux, Marseillaise devant l'humour, ils ne comprennent pas très bien, mais là, ils comprennent. Et ils avaient dit à la femme, nous, on est généreux, on n'exécute pas les femmes. Alors, vous allez connaître la vérité. On n'exécute pas les femmes. Alors, je lui disais, mon cas est si grave, j'aurais presque préféré être fusillée avec mes camarades hommes. Et elle avait raison, parce que quand j'ai été déportée, je pensais la trouver en Allemagne, elle est arrivée à Hambourg et guillotinée. Le sort, la générosité accordée aux femmes, vous voyez, c'est ça. Il y a d'ailleurs un autre cas, Olga Bancic, je ne sais pas si vous connaissez l'affiche rouge, main d'œuvre, M-O-I, ouvrier, le beau poème d'Aragon, l'affiche rouge. Eh bien, on voit 23 hommes, barbus, etc. Mais il y avait une femme, Olga Bancic. Même sort, elle a été guillotinée près de Cologne. Voilà le sort particulier des femmes.
Ah. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Fin juillet 1943, Marie-Jo est déportée à Ravensbrück. Elle fait partie avec sa mère d'un groupe de résistantes classées nuit et brouillard. Catégorie de déportés dits politiques qui doivent disparaître sans laisser de traces. Son père sera déporté à Buchenwald où il mourra en février 1944.
NN, en allemand, donc déporté, devant disparaître, les nuits et brouillards, on veut disparaître. Donc nous arrivons 58 femmes NN à Ravensbrück et on attendait, il passait à la douche, c'était le soir et on voit les femmes rentrer du travail. C'était le premier choc, terrible, parce qu'on voit les femmes, les robes en loques, le teint gris, tellement mine, une mine épouvantable, maigre, etc. Et surtout ce regard fixe. Et alors, entre nous, avant de passer à la douche, mais où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être un bagne à côté. On a vite compris. On rentre dans la douche, et c'est ce que nous avons appelé la première étape de la déshumanisation. On perd notre nom, ils nous prennent tout ce qu'on a, l'alliance des femmes sont arrachées, ils nous fouillent dans les parties intimes et tout. C'est l'humiliation totale, et nous sortons, nous ne sommes plus qu'une chose, un objet. C'est ce que les nazis avaient comme mécanisme de déshumanisation, n'est plus des êtres humains.
Marie-Jo Chambordelot est d'abord affectée chez Siemens dans des ateliers qui produisent des petites pièces électriques. Petites pièces électriques que parfois elle dérobe pour fabriquer des petits cadeaux à offrir à ses camarades de déportation. Elle raconte que la résilience, elle a commencé en déportation, par l'amitié et la solidarité. Nous luttions contre la déshumanisation par de petites attentions comme nous offrir des cadeaux. Elle est ensuite réquisitionnée pour effectuer des travaux de terrassement. Après l'été 1944, en tant qu'ancienne étudiante en médecine, elle est affectée au bloc 11, le bloc des nourrissons. Sur 600 bébés nés au camp, seuls une quarantaine ont survécu, dont trois petits Français.
L'humanité a été définie au procès de Nuremberg, des grands dirigeants. À Ravensbrück, quand femme, il y a eu des femmes qui arrivaient enceintes. Ben, allemand, leur prison. Il y avait une circulaire, pas de naissance au camp, pas de bébé. Le camp est créé en 1939. 39, 40, 41, 42, 43. Quand une femme arrive enceinte, qu'elle est détectée, qu'est-ce qui se passe? Si la grossesse n'est pas avancée, on la fait avorter. Il y a une infirmerie, il y a une espèce de pseudo. Mais si la grossesse est avancée, elle accouche. Et le bébé est tué à côté du lit de la mère, noyé dans un seau ou assommé sur le mur. Ça, c'est un crime atroce. Bon. Mais à partir de 1944, les nazis commencent à sentir tout de même que les choses ne tournent pas si bien pour eux. Les bébés ne sont plus tués. Et ils sont insérés dans une petite pièce d'une baraque de malades. Et je suis une des jeunes filles chargées de s'en occuper. Quand j'arrive dans cette pièce, alors parce que j'avais l'habitude, ma mère était sage-femme, mon père médecin pédiatre, des enfants, on faisait une pédé de bébés, c'était bien important. Et là j'arrive, consternée, des bébés avec des visages de vieillards, et qui mouraient. On me l'amène avec le bébé après l'accouchement, il a une chemise, une seule couche de change. Or, un nouveau-né se change 5-6 fois par jour. Manque d'hygiène totale. Appelle la solidarité, l'entraide du temps. C'était une ville à l'époque, le camp Rouillé, il y avait 40 000 femmes, il y avait des ateliers. On dit à l'occasion, tâchez de nous ramener quelques bouts de chiffon qu'on a découché en plus. Mais sortir un bout de tissu, ça risquait la bastonnade et des choses très dures. Bref, elles ont risqué. Bon. Et puis, pour nourrir ces bébés, les mères venaient 5 fois par jour. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de femmes déportées. Elles s'asseyaient dans une pièce à côté, comme ça, elles prenaient le bébé. Tentative de nourrir au sein. C'est une des choses qui m'a le plus choquée. Une déportée avec un bébé au sein. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Bon. Alors, on s'est battu pour obtenir du lait en poudre. Il y avait à l'hôpital central du lait en poudre qui était arrivé de la Croix-Rouge. On a obtenu d'aller chercher tous les jours un pot de lait en poudre. Alors, on allait chercher ça et on nous donne 2 biberons. Mais dans cette pièce, j'ai eu 20, puis 30, jusqu'à 40 bébés. Alors les mères, on leur remplissait ces 2 biberons impossible de bouillir, de même rincer. C'était encore là aussi impossible pour la moindre hygiène. Réappel à la solidarité du corps. Et je vous assure, dans ce cas-là, les femmes, elles sont actives et imaginatives. Vous êtes très imaginatives. Bon. Elles nous trouvent 10 petites bouteilles. Mais faire boire un nouveau-né à la bouteille comme ça, c'est pas facile du tout. Il fallait des tétines. Et là, je cite parce que je trouve cette histoire assez géniale. Il y a une de nos camarades infirmières à l'infirmerie centrale. Elle a attendu que le médecin-chef soit sorti, le fameux docteur Traître. Elle est rentrée dans son bureau et elle a volé sa paire de grandes caoutchoucs. Et dans les 10 doigts, on a taillé des tétines avec un petit trou dessus. Alors, c'était pas extraordinaire, mais c'était déjà un mieux. Et on essayait de faire vivre les enfants. Lutte pour la vie, ça a été une des spécificités aussi des femmes. Pour la vie, la survie. Bon. Mais, malheureusement, très peu ont survécu.
Début mars 1945, Marie-Jo Chambardolo est transférée sous les bombardements alliés avec sa mère et une partie des femmes à Mauthausen, puis libérée quelques semaines plus tard. Après la guerre, elle épouse Paul-Henri Chambardolo, ancien résistant, ayant servi comme pilote de chasse dans l'armée de libération. Elle reprend des études, notamment d'anthropologie et de psychosociologie. En 1960, elle publie une thèse sur la psychopathologie de l'enfant inadapté. Elle a multiplié les travaux sur ce thème comme chercheuse au CNRS de 1954 à 1962. Lors de la guerre d'Algérie, elle s'est mobilisée pour dire non à la torture. Militante de la Ligue des droits de l'homme, elle a publié plusieurs travaux sur la montée de l'extrême droite en France comme dans d'autres pays d'Europe et reste vigilante plus que jamais dans ce domaine.
Ce qui m'a le plus touché, bon, après la guerre, ben, j'ai fait ma vie, j'ai appris des études, j'ai rentré à la recherche scientifique, etc. Mais le choc, je ne faisais pas de témoignage, je n'avais pas le temps d'ailleurs. 4 enfants après mes études, bon, j'avais juste l'amicale de mon camp, Ravensbrück, qui a d'ailleurs été créée juste après la guerre pour aider, encore une fois, celle qui est rentrée en France avec souvent des situations difficiles, m'a réfugiée, etc. Bon, alors j'allais une fois amicalement tout, mais je n'étais pas centrée sur la déportation. Le choc, ça a été d'apprendre, avec Germaine Dion, etc., la torture en Algérie. Alors là, on s'est engagé et j'ai dit, alors ça, c'est ça, il faut parler de ce qu'on avait dit. Il faut parler jusqu'où peut aller l'erreur. Et je me suis très engagée contre la torture, etc. J'ai et travaillé à la Ligue des droits de l'homme, beaucoup. Alors, j'ai travaillé sur deux secteurs. D'une part, la commission avec Madame Réverieux, vous voyez aussi là, sur la remontée des groupes néo-nazis qui reprennent ce phase et qui niaient, et les négationnistes qui niaient tout le travail qu'on avait fait, vous voyez, d'une part. Et d'autre part, on m'a demandé, en 87-88, à créer une commission des droits de l'enfant de la Ligue pour préparer l'adoption par la France de la Convention internationale des droits de l'enfant, où j'ai beaucoup travaillé aussi, vous voyez. Mais le choc, ça a été de découvrir, au fond, qu'il y avait des traitements inhumains et dégradants, c'est la formule, vous voyez, des textes de Nuremberg par la suite, qui s'appliquaient, hélas, même par les nôtres, même pour la France. Et Germaine Tillon m'a dit un jour, mais tu vois, c'est affreux, moi aussi j'ai découvert que cette horreur des crimes, il n'y a pas que l'Allemagne nazie qui a pratiqué, on peut, ou au moins d'autres, les pratiquer. Et puis on a travaillé, on a découvert l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, ça peut se reproduire d'une autre façon, peut-être pas de cette façon si scientifique et méthodique que dans l'Asie. Alors il faut être vigilant tout le temps, parce que ça recommence ailleurs.
Vigilance. Écoutons le chant des partisans par Anne Marly.
Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur les plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les bâtiments. barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Radio Campus 93.3, tous les deuxièmes mardis du mois, c'est Féministe et vous, l'émission d'Oser le féminisme 63. Nous avons ce mois-ci un coup de cœur et un coup de gueule.
Debout, debout.
Coup de cœur pour Yaël Melloul. Nous avons eu le plaisir de recevoir Maître Yaël Melloul lors d'une réunion publique samedi dernier sur les violences psychologiques et le suicide forcé. Ce fut une belle rencontre. Yaël Melloul est une femme très accessible et qui nous a raconté avec des mots compréhensibles par tous et toutes son combat. Elle se bat pour que les violences psychologiques dans le couple soient reconnues et punies par la loi. Elle souligne qu'il est incohérent, lorsqu'il y a poursuite judiciaire pour des violences physiques, de ne pas poursuivre aussi pour violences psychologiques. La violence psychologique précède et accompagne toujours la violence physique. C'est un fait qui est peu connu et qui mérite qu'on l'explique. Lorsqu'on parle du fait de société que sont les violences conjugales, dont les victimes sont la plupart du temps les femmes, on entend souvent dire « Mais pourquoi la victime n'est-elle pas partie ?» ou bien « Elle est revenue chez lui, c'est donc qu'elle est d'accord. » C'est comme si on faisait porter la faute des violences sur la victime. C'est parce que l'on comprend mal l'engrenage de la violence conjugale. L'auteur de violence a besoin de dominer. Il va donc installer une emprise psychologique sur sa victime et l'isoler tout en assurant son impunité. Il va d'abord dévaloriser sa compagne par des remarques, des insultes, des comportements blessants. En alternant avec des repentirs, des tendresses, il va enfermer sa victime dans un cercle infernal. Elle va peu à peu être persuadée qu'elle mérite les insultes, qu'elle mérite les violences. Et la honte l'empêchera de parler à son entourage et de briser son isolement. Elle a intériorisé la violence. Dans les violences conjugales, nous disait Yaël Melloul, le pire, ce n'est pas de prendre des coups, mais d'être tellement détruite à l'intérieur qu'on ne peut plus réagir. Ces violences psychologiques peuvent causer tant de souffrances que la victime ne trouve pas d'autre issue que de se donner la mort. Yaël Melloul se bat pour qu'on puisse poursuivre pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, un conjoint qui, par ses violences, a conduit sa compagne à se suicider. C'est ce qu'on appelle le suicide forcé. Les textes de loi existent, il ne manque que la volonté de les appliquer. Et c'est pourquoi Maître Melloul conduit des actions de formation, notamment dans le milieu judiciaire et policier, pour que les acteurs de la justice prennent en compte la réalité des violences psychologiques en jeu dans les violences conjugales. À l'origine de ces violences, il faut aussi combattre tous les schémas qui vont inciter les hommes à vouloir dominer les femmes. Frapper une femme, c'est lui faire comprendre qu'elle n'est pas une personne, qu'elle est une chose. C'est l'ultime forme du patriarcat. C'est pourquoi, si nous voulons lutter contre les violences faites aux femmes, nous ne devons pas les traiter comme des cas isolés, mais comme un phénomène global dont la racine est la place inférieure des femmes dans la société. Combattre les clichés, c'est aussi sauver des vies. Une femme meurt sous les coups tous les 3 jours. Est-ce que nous trouvons ça normal ? Merci à Yaël Mellou d'être venue pour en parler aux Clermontoises et aux Clermontois.
Merci Céline. Maintenant, on va écouter le coup de gueule de notre ami Patrick. Bonsoir Patrick, t'es là ? Allô, allô Patrick ?
Notre envoyé spécial de Paris.
Allô ?
Ah, bonsoir Patrick.
Bonsoir, j'entends très très loin. Hein.
T'entends très très loin, mais nous on t'entend très très bien, c'est l'essentiel. Allez,
bon alors ça va.
On t'écoute.
On y va ?
On y va.
C'est parti.
Alors bonsoir tout le monde. Najat Vallaud-Belkacem vient d'être nommée triple ministre. Droits des femmes, politique de la ville, jeunesse et sport. Il lui a fallu toute sa conviction, son intelligence et sa capacité à avaler des couleuvres pour trouver une cohérence dans ce que le journal Le Monde a appelé la semaine dernière le ministère voiture-balai de Najat Vallaud-Belkacem. C'est le ministère de l'égalité entre les sexes, entre les générations, entre les quartiers, a déclaré Madame la ministre. Dans cette quête du Graal de l'égalité, on aurait dû aussi la nommer ministre du Travail pour réaliser l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, ministre de l'Éducation pour rééquilibrer les orientations filles-garçons et améliorer le traitement des enseignants, le métier étant d'ailleurs fortement féminisé, et une étude de l'INSEE de mars 2013 montre que leur salaire moyen est inférieur aux autres fonctionnaires de même catégorie. Elle aurait aussi dû être ministre des Affaires étrangères pour s'inquiéter des inégalités abyssales entre les sexes à travers le monde. Des inégalités qui façonnent aussi des conflits locaux, comme on a pu le lire à propos des viols en Syrie, véritable arme de guerre sous la plume de la journaliste Annick Cozon. En fait d'égalité, ce serait plutôt celui du mépris pour des domaines secondaires au regard de la question qui fit converger tous les commentaires, véritable pierre philosophale de l'action gouvernementale, j'ai nommé la réduction du déficit budgétaire. On ne peut pas dire que la politique de la ville ait jamais été au cœur d'une quelconque priorité depuis 30 ans. Le seul mot qui vient à l'esprit sur le sujet, c'est « faillite ». On doit aussi se demander si Valérie Fourneyron ne se tournait pas les pouces à la jeunesse et au sport. Une ministre à temps plein pendant 2 ans, alors qu'un tiers semble lui suffire. Il ne reste qu'une seule hypothèse. Najat Vallaud-Belkacem est la Wonder Woman du gouvernement. Elle va devoir, avec son équipe, bannir le dopage de la pratique du sport, valoriser le sport féminin, rendre aux banlieues une vie sans violence et sans chômage massif, faire que les jeunes filles puissent sortir sans se vêtir d'un jogging gris-souris jusqu'aux oreilles et sans raser les murs, lutter contre les violences faites aux femmes, assurer la bonne fin de 2 lois en chantier au Parlement contre le système prostitutionnel et celle sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Avec autant de qualité, François Hollande aurait dû la nommer tout de suite Première ministre. C'est peut-être ce qu'on peut lui souhaiter de mieux pour son avenir, comme pour celui du pays. Bonne soirée.
Merci Patrick. Donc nous allons maintenant passer à la rubrique culture, c'est-à-dire le féminisme pour les nuls.
Debout, debout.
J'ai découvert l'histoire de Djamila Boupacha après la diffusion du téléfilm réalisé par Caroline Huppert pour Djamila, diffusé il y a quelques semaines sur Arte. Qui est Djamila Boupacha ? En pleine guerre d'indépendance en Algérie, cette jeune fille s'engage au sein du FLN. Elle est interpellée avec toute sa famille et accusée d'avoir déposé une bombe au sein de la brasserie des facultés. Elle fut torturée et violée par des militaires français qui parviennent ainsi à lui extorquer des aveux. Suite à une lettre de son frère réfugié au Maroc, Gisèle Halimi s'empare de l'affaire en tant qu'avocate et la médiatise pour sauver Djamila qui risque la peine capitale. Elle fait ainsi savoir au peuple français que contrairement aux ordres de De Gaulle et aux affirmations de Malraux, qui est alors son ministre, l'armée française continue de torturer en Algérie. Soumise à des pressions et empêchée de défendre correctement sa cliente devant le tribunal militaire d'Alger, car oui, à cette époque en Algérie, c'était bien une justice militaire et non une justice indépendante qui s'exécutait, Gisèle Halimi fait appel à Simone de Beauvoir. L'écrivaine et philosophe publie un article dans Le Monde le 2 juin 1960 sous le titre « Pour Djamila ». Il débute par cette phrase. Ce qu'il y a de plus scandaleux avec le scandale, c'est que l'on s'y habitue. L'article ne sortira pas en Algérie, car l'édition sera saisie sur ordre du Premier ministre Michel Debray. Par contre, il fera grand bruit en métropole. Des comités de soutien s'organiseront, regroupant de nombreux intellectuels, mais aussi d'anciennes résistantes et déportées, comme Germaine Tillon ou encore Marie-Jo Chambardelot. Gisèle Halimi réussit à faire transférer Djamil Aboupacha en France pour être jugée par un tribunal civil à Caen. Djamila reconnaîtra sur photo plusieurs de ses tortionnaires, mais jamais les noms ne seront obtenus, refusés par le ministre de l'Armée, Pierre Messmer, et le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. C'est alors que Gisèle Halimi décidera de raconter l'histoire de Djamila dans un livre dans lequel elle n'hésitera pas à dévoiler le dossier de l'instruction, ce qui est formellement interdit. C'est pourquoi Simone de Beauvoir co-signe l'ouvrage alors qu'elle n'en a que rédigé la préface afin de partager les risques judiciaires. 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Français et Françaises découvrent que certains militaires français utilisent les mêmes méthodes de torture dans le cadre des interrogatoires que le faisait la Gestapo quelques années auparavant. Ainsi, Djamila Aboupacha, mise en sécurité pendant un mois en toute illégalité, puisqu'elle n'est officiellement emprisonnée nulle part, va subir le pire. La Gégène, avec ses chocs électriques dans ses parties les plus intimes, les coups réguliers et répétés, la torture de la baignoire, les brûlures de cigarettes sur tout son corps, et enfin le viol de sa virginité à l'aide d'une bouteille dans le vagin. Après les accords d'Évian de 1962, Djamila sera enfin libérée. Aucun des soldats qui lui a infligé cela ne sera jugé et condamné. Plus de 50 ans après, la France n'a toujours pas reconnu l'utilisation de la torture pendant cette guerre. Le général Ossarès a reconnu en 2000 l'utilisation de la torture jusqu'à la mort, ainsi que l'exécution sommaire de 24 personnes. Le Parti communiste français a demandé à l'époque la création d'une commission d'enquête parlementaire refusée par Lionel Jospin, Premier ministre, sous prétexte que pour lui cette période ne relevait pas d'un acte de repentance collective, mais d'un travail de vérité mené par les historiens. Pour sa part, le président de la République Jacques Chirac avait renvoyé dos à dos le FLN et l'armée française.
Merci beaucoup Karine. C'est le moment de se dire à bientôt au mardi 13 mai, 18h, sur Radio Campus 93.3. Et n'hésitez pas à venir voir nos informations sur la page Facebook de OLF63, sur notre blog, où vous pouvez aussi réécouter les émissions passées. Je pense qu'il y a une bête qui attend derrière la porte, hein, c'est Sound of the Beast. Donc à bientôt et n'oubliez pas, féministez-vous.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fonds, nos femmes esclaves.